Sorgia FM, Sorgia. Nous vous l'avons annoncé à plusieurs reprises sur notre antenne, la sortie de ce livre consacré à l'abbaye de Chaisery. Un véritable pavé de quelque 408 pages. 408 pages qui racontent toute l'histoire de cette abbaye, mais aussi du monde ecclésiastique en général, des événements qui ont marqué les lieux, de manière générale aussi, de notre grand bassin de vie. Bien sûr, nous avons rencontré son auteur, Ghislain Lancel. Une demi-heure d'entretien pour survoler, on ne peut pas faire autrement, survoler cette histoire qui a laissé des stigmates visibles encore aujourd'hui. L'abbaye de Chaisery, abbé et histoire, monastère et dépendance. Interview. Alors Ghislain, un ouvrage complet sur l'abbaye de Chaisery. Quand on regarde l'ouvrage, il fait 400 pages, un peu plus de 400 pages, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut concevoir un bouquin de 400 pages sur une abbaye qui a tant d'histoire, avec beaucoup de choses qui ont disparu, certaines archives, on va en parler. Au départ, ce bouquin, c'était que deux feuillets, c'est une demande comme ça, un peu légère, d'après ce que j'ai compris, qui a débouché sur ce bouquin, qui a dû prendre quand même un certain nombre de mois de préparation. Mais au départ, c'était, je vais dire anodin, c'était deux feuillets, un petit bout d'histoire qui commence, c'est ça ?
Alors, d'abord, bonjour aux auditeurs. Effectivement, la préparation a commencé il y a longtemps. Depuis une dizaine d'années, je collecte des documents sur au niveau patrimonial sur Champfromier, les environs, la vallée de la Valserine, et puis on les publie sur notre site internet Patrimoine Histoire de Champfromier. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, un ami me dit « Oh, tu sais pas, à la fromagerie de l'abbaye de Chaisery, les touristes y repartent évidemment avec du fromage, mais alors ils n'ont qu'une question, c'est pourquoi la fromagerie de l'abbaye ? Il n'y a pas d'abbaye, on ne voit rien. » Et donc à ce moment-là, bah, j'avais proposé de faire une petite brochure de 4 pages, et puis je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. J'adore fouiller dans les archives, et puis je me suis mis à commencer cet ouvrage qui vient de sortir maintenant.
Alors, Ghislain, de fil en aiguille, on commence à trouver certaines archives, on se dit que ça peut donner lieu à d'autres trouvailles. C'est ce qui a lancé le livre, ça.
Alors effectivement, de proche en proche, on a envie de fouiller autre chose, on rencontre des gens, en particulier j'ai rencontré un Suisse qui avait épluché les archives de Turin et qui m'a passé toutes ses notes où il avait noté tout ce qui concernait les abbayes cisterciennes d'une manière générale et en particulier de Chaisery. Donc effectivement, on finit par consulter des masses très importantes de documents.
Alors c'est un bouquin qui est un peu particulier avec des chapitres, des gros chapitres de couleurs différentes. Ça correspond à quoi, ça ?
Oui, alors j'ai pensé au lecteur. Il n'est pas évident qu'on ait envie de le lire comme un roman en partant de la première page, mais par thème. Donc, les onglets de couleurs sur le livre sont d'abord le mauve, c'est la liste des 35 abbés, dont une dizaine sont inédits, personne n'en a jamais entendu parler. Ensuite, on a du rouge, c'est le monastère. Le monastère était construit en pierre blanche, mais moi je suis picard et là-bas c'est de la brique donc j'ai choisi le rouge pour les bâtiments. Ensuite on a le vert, c'est la nature bien sûr, donc là ce sont toutes les granges et les dépendances, donc y compris les moulins, les logis banaux, etc. En bleu, C'est la partie réellement historique, donc en fait c'est l'abbaye à travers la Savoie, la France, donc avec des documents d'intérêt généraux. Et puis ensuite on a un index des lieux et puis une table des matières en gris. Donc cette table des matières, elle peut permettre justement à un lecteur qui cherche d'abord des thèmes de feuilleter et trouver quelque chose d'intéressant. Bon, par exemple la saga des reliques de Saint-Roland, une grange en particulier, celle de Lancran ou celle de Clarafond pour les gens qui habitent à proximité, ou bien encore concernant l'histoire. La fameuse invasion des Bernois en 1536 et puis celle des Genevois un petit peu plus tard en 1590.
L'abbaye aujourd'hui, elle n'existe plus. Et pourtant, on en parle. Il y a la fromagerie de l'abbaye de Chaiserie. Les gens qui viennent acheter du fromage disent, mais attendez, là c'est une fromagerie, l'abbaye elle est où? Les murs sont où? Il n'y a pas de murs.
Voilà, alors il faut savoir que effectivement de la partie monastère de l'abbaye, il ne reste pratiquement plus rien, sauf un petit bout de mur. Mais par contre, il reste encore parmi les dépendances des bâtiments qui sont au même endroit qu'à l'époque. Bon, par exemple, le relais des moines, c'est un ancien logis banal qui est exactement au même endroit avec le porche, et puis au-dessus le logis du haut qui maintenant est privé. Et donc, ça se situe au centre du village de Chaiserie, sur une sorte de petit replat, si on veut. Pour ceux qui connaissent, sur la gauche, quand on prend la route de l'Épéry, donc toute la partie qui est à gauche, c'était l'abbaye.
On se dit, Justin, que l'abbaye et le relais des moines étaient étroitement liés. Alors, le relais des moines, il y a le restaurant, il y a la partie privée au-dessus, vous l'avez dit. Pourquoi ça s'est resté et pas le reste?
Alors, à la Révolution, tout a été vendu à un très riche négociant de la vallée de Mijou. Et ensuite, il a revendu tout au détail.
Alors, forcément, on parle de Chaiserie, on parle d'une région, j'allais dire, d'un bassin de vie. On peut citer les lieux ou retrouver quels lieux sont cités dans cet ouvrage?
Oui, alors ils sont très nombreux, à commencer évidemment par Chaiserie et puis ses hameaux, donc Forence, La Rivière, Mentières. Il ne faut pas oublier non plus l'Élex, qui aujourd'hui est détaché de Chaiserie, mais à l'époque, c'était inclus dans la paroisse. Hein. Donc ce village est abondamment cité, bien sûr. À proximité, nous avions Ballon, qui avait passé un pariage avec l'abbaye de Chaiserie. Bon, c'est-à-dire que en fait, le seigneur de Ballon se proposait de défendre Chaiserie, puisque les moines n'ont pas d'armes, en cas d'attaque. Donc Ballon est fortement concerné. Ce pariage a duré de 1287 à 1575. Et bien entendu, ça s'étend jusqu'au Rhône, c'est-à-dire jusqu'à Léa et Grésin. Les granges et les terres de droit étaient aussi très importantes. Les droits, c'était la dîme, bon, et puis une redevance spéciale qu'on appelait les servis. Et là, c'est un territoire qui est immense et qui était délimité en fait par les autres abbayes et les autres grandes agglomérations. Donc en fait, ce territoire, il comprend d'abord le Pays de Gex, très très important. Les granges ont vite disparu parce que les abbés les vendaient. Beaucoup ont été des dilapidateurs menacés d'excommunication. Et donc, Gex n'est pas très connu, mais pourtant, il a été très important. Et puis surtout, il y a donc tout le sud de Genève, donc les deux rives du Rhône. Donc on peut citer le Vouache et le Salève, et puis plus au sud, on a la Michaille et la Semine, avec énormément de villages où les moines possédaient une vigne, une terre où ils avaient les dîmes. Donc il y en a beaucoup, et alors il y en a même de très loin, ça va jusqu'à Villars-les-Dombes, où là, dès les premiers temps, l'abbaye a eu des terres, puis des étangs. dont les poissons permettaient de nourrir avec quelques bénéfices les gens aisés de Lyon. Et puis enfin, il ne faut pas oublier non plus les villes qui correspondaient à des abbayes qui pouvaient entrer en conflit avec Chézery. Donc il y en a essentiellement deux. Nantua, bien sûr, qui est très présent dans l'ouvrage. Et puis l'abbaye de Saint-Claude, qui était limitrophe au nord du territoire de l'abbaye de Chézery, donc avec lesquels il y a eu pas mal de discussions, conflits et soumissions. Par exemple, le fameux territoire de l'Élex qui a été accordé étonnamment par un pape.
Est-ce que l'histoire était étroitement liée donc à cette abbaye, et pourquoi le relais des moines reste des murs et que l'abbaye...
Alors, à la Révolution, tout a été vendu en un seul gros lot à un très riche négociant de la Valline de Mijou. Il y avait 14 articles à peu près, et ensuite, en quelques années, il a revendu chacun des articles. Donc, il a revendu l'église, il a revendu les logis, il a revendu des granges, etc. Et chacun ayant acquis ce lot en a fait ce qu'il a voulu. Et l'église par exemple était en très très mauvais état, et donc en fait elle est devenue une carrière de pierre, et donc aujourd'hui elle a totalement disparu. Bon, par contre, l'endroit où est le relais des moines aujourd'hui était l'un des deux logis, encore relativement en bon état, et en fait le propriétaire, enfin celui qui a racheté ce lot, a décidé de l'habiter avec ses nombreux enfants, et donc il a été entretenu, modifié à leur goût, et donc par exemple les arcades du cloître qui étaient derrière ont disparu. Pendant un moment ça a été des écuries, et puis ensuite ça a été revendu, et puis aujourd'hui donc il y a ce fameux restaurant, le Relais des Moines, qui est une partie de ce bâtiment.
On retrouve tous ces lieux et le nom de ces lieux dans votre ouvrage. Oui. Est-ce que vous avez eu du mal déjà à retrouver certaines histoires de ces bâtiments?
Alors tous ces lieux se retrouvent évidemment dans l'ouvrage, en particulier dans l'index des lieux. Oui. J'en profite pour dire que pour les généalogistes, ils auraient préféré un index des personnes qui était prévu, mais l'ouvrage était déjà très gros. Donc en fait, il est téléchargeable gratuitement sur le site. Il y a les coordonnées dans l'ouvrage en ce qui concerne les personnes. Donc pour les lieux, il n'y a aucun souci. Il y a énormément de documents qui proviennent des archives des notaires sur lesquels il y a toutes les explications.
On poursuit cet entretien, cette entrevue, avec effectivement pas mal de sous-entendus concernant l'abbaye de Chézery, et je plonge le nez dans des choses qui m'ont un peu interpellé. La vie charnelle des moines, les sévices corporels, je me suis dit, où est-ce qu'il nous emmène, Justin? Il y a des choses, bon, c'est relativement léger, j'aurais une question ensuite complémentaire. C'était inévitable d'évoquer la vie charnelle des moines, les sévices corporels, les filles de joie aussi, parce qu'il en est aussi question.
Non, c'est pas du tout l'objectif du livre, ça ne concerne qu'une demi-page, mais ce sont des faits, on les retrouve dans les archives, donc c'est signalé. Les rumeurs, alors ça concerne effectivement la vie privée, on va dire, de ces moines, et ça tient surtout au fait que on a dit qu'ils ne dormaient jamais dans le dortoir. Alors en fait, c'est exact, parce que le dortoir a brûlé en 1466 à peu près, et pendant deux siècles on a été en attente qu'il soit reconstruit. Donc c'est évident qu'il fallait qu'ils aillent dormir ailleurs, et donc ils avaient le choix, ils ont dû faire construire un petit pavillon où apparemment il y en avait quelques-uns qui étaient là. Il faut dire qu'au total ils étaient 12, hein, donc il n'y avait quand même pas besoin d'énormément de place pour dormir. Il y en a qui prenaient la liberté d'aller dormir à l'extérieur, chez des membres de leur famille, parce qu'il faut dire que c'est quand même une abbaye qui est locale, donc il y a énormément de moines et parfois d'abbés qui sont originaires du pays, donc tout le monde se connaissait. Il y en a aussi aussi qui avaient pris la charge d'une grange et qui à ce moment-là dormaient dans leur grange. Donc c'est vrai qu'ils ont dormi un petit peu partout, mais de là à les dire ou laisser entendre que c'était des garçonnières, je ne pense pas. Enfin, non, on n'a quand même pas beaucoup d'éléments allant dans ce sens.
Et en même temps, ce sont des choses qui sont difficiles à consigner. C'est des rumeurs. Mais on dit qu'une rumeur naît toujours de quelque chose, non ?
Alors, on n'a aucun registre concernant les décès des abbés et des moines. Et donc, si on les avait eus, peut-être qu'on aurait eu des informations sur des enfants illégitimes ou autres. Mais on ne peut pas le dire, on n'a aucune information dans ce sens.
On ne sait pas s'il y a un enfant légitime qui serait né au conditionnel, évidemment, de ces différentes histoires.
Non.
On poursuit. Il y a encore d'autres choses à aborder concernant l'histoire de cette abbaye qui a été, c'est un passage important aussi, qui a été dans la tourmente 1789.
Oui, alors...
La Révolution.
Donc, à la Révolution, il faut dire que l'abbaye était en déperdition, aussi bien par rapport au bâtiment qu'aux mœurs, mais surtout par rapport au bâtiment. Et les moines ont cherché à trouver des moyens pour reconstruire ces bâtiments. Et puis, ça a été l'échec. Et la révolution est arrivée, et comme tous les autres monastères, c'est devenu un bien national.
Ouais.
Et donc à partir de là, comme j'en parlais tout à l'heure, racheté par un négociant. Sur la période de la Révolution, moi je tiens à signaler un événement qui me touche particulièrement, c'est l'autodafé du 10 août 1793, où toutes les archives internes à l'abbaye ont brûlé. Donc il y avait à peu près 600 documents. Donc ils ont tous brûlé en un beau feu de joie sur la place publique, avec toutes les chartes, les sceaux en cire, etc. Sauf peut-être quelques-uns cachés qui sont encore à trouver.
Alors dans ce même ouvrage, il faut le parcourir, on dira après comment se le procurer. Il y a des informations assez étonnantes, comme cet enfant nommé abbé à l'âge de 12 ans.
Oui, alors parmi les rumeurs, mais là ce n'en est pas une, c'est une réalité, il se trouve que l'abbaye était souvent en manque d'abbés, en particulier peu avant cette date de 1677, on a eu une absence d'abbés à la tête de l'abbaye pendant 8 ans. Et c'était un bien pour un mal, car à ce moment-là, c'était le Sénat de Savoie qui prenait en charge les responsabilités de cette abbaye, et qui en particulier a fait reconstruire énormément de choses, ou bien tout au moins réparer. Alors on était tellement étonnés que... On a compris ensuite que, en fait, c'était intéressé parce que le duc de Savoie, Charles-Emmanuel II, avait un enfant naturel de Madame de Trécesson et qu'il allait bientôt avoir 12 ans et il fallait le caser quelque part. Et donc, on l'a institué abbé de l'abbaye de Chézry à l'âge de 12 ans.
C'est impensable, incroyable. Quand on en parle aujourd'hui, quand vous en parlez dans ce livre, on l'imagine difficilement, à 12 ans, un abbé.
Il faut dire que depuis pas mal de siècles, les abbés n'étaient plus élus par leur communauté, mais étaient nommés, désignés par soit le pape, soit le duc de Savoie. Dans la pratique, c'était toujours le duc qui prenait l'initiative. Et donc, il a désigné comme ça un certain nombre de personnes, pas forcément des religieux d'ailleurs, qui avaient apporté des services à la Savoie. Et donc, en remerciement, on les nommait. Et donc, on les appelait des abbés commendataires. Hein, donc ils étaient désignés, nommés. Et donc cet enfant de 12 ans, il était abbé commendataire comme les autres.
Et on connaît son parcours par la suite ou pas? Ou mal ou un peu
Avec des points d'interrogation. On sait que cette abbaye ne lui a pas semblé suffisamment prestigieuse et donc il l'a doublée avec celle de Sixte. Et puis par la suite encore, même ces deux petites abbayes, ça n'allait pas. Et puis il préférait quand même l'Italie. Donc il a résilié le tout et puis il est parti à Lucedio, donc une ville italienne.
Je vois aussi dans le livre et dans l'entretien que l'on a, Ghislain, c'est que les rois de France ont joué un rôle à Chaisery. Et un peu plus loin, je vois que par un certain traité, la paroisse de Chaisery a été découpée en deux.
Oui, alors plusieurs rois de France sont intervenus. On pourrait citer François Ier en 1536, qui a permis d'éviter que l'abbaye ne soit ravagée. D'autres ont eu leur rôle, donc Henri IV avec le traité de Lyon en 1601. Donc par ce traité, pratiquement tout le département de l'Ain passait de la Savoie à la France, sauf la Dombe, et sauf un petit couloir entre la Valserine et les montagnes du Jura, dans lequel est passé le fameux chemin des Espagnols, hein, qui a été l'objet d'un livre précédemment publié aussi par notre association. Et donc la paroisse s'est retrouvée coupée en deux, avec la moitié de ses terres, on va dire la rive droite de la Valserine en France, et la partie rive gauche en Savoie. En fait, c'était plus compliqué encore que ce que je le dis.
Et c'était compliqué au niveau d'un village, au niveau des ecclésiastiques, cette coupure?
Ça compliquait les choses parce que par exemple pour administrer la paroisse, il fallait un vicaire à la part de France et un vicaire à la part de Savoie. Donc ça compliquait un petit peu les choses. Et puis la France a toujours regretté d'avoir laissé ce couloir là. Et donc il y a eu sans arrêt des pressions. Et donc dans le livre, on verra que il y a parfois des visites musclées à l'abbaye ou au logis où la France montre bien que le territoire lui appartient pas, mais qu'elle est quand même pas loin et qu'elle est présente.
Ça, c'est consigné dans le livre
qui
vient de sortir. Oui. Il y a aussi dans ce livre, Ghislain, des inédits, quelques inédits pour, j'allais dire, appâter le lecteur qui s'intéresse à notre histoire et à l'histoire de l'abbaye, bien sûr.
Oui, alors, naturellement, il faut dire que précédemment, le dernier ouvrage général imprimé datait d'un siècle, donc Anneuzo en 1921. Bon, ensuite, on a eu des documents comme Burdéron qui ont été importants, mais qui n'ont été que dactylographiés et qui sont très peu connus par le public. Donc, on peut dire que entre Anneuzo et aujourd'hui, les archives sont quand même beaucoup plus facilement consultables, et en particulier sur Internet. Donc d'un seul coup, on a eu beaucoup d'informations totalement inédites. Toutes ces données sont dans le livre, et font le point donc pour l'année 2020. Si j'insistais sur quelques particularités inédites, on pourrait signaler ce que l'on pensait être une église abbatiale unique et qui en fait a été double. On a eu une petite église abbatiale, probablement celle dont on parle en 1140, et ensuite un antipape d'Avignon, Félix V, qui dans le privé était duc de Savoie, est visiblement intervenu pour agrandir, embellir l'abbaye. Et donc là, une deuxième église plus pimpante est venue se placer dans l'enfilade de la vieille, Et c'est pour ça que dans les souvenirs, enfin les écrits récents que l'on trouve, on dit l'église était très longue, immense. Hein. Donc en fait, elle était double. Le chœur était la vieille église et la nef était la nouvelle église en réalité. Et je parlais de cet antipape là. On n'a pas les informations, mais on est presque sûr que c'est lui qui est intervenu, puisque j'ai découvert dans les archives en italien à Turin qu'il avait deux vitraux pour lui. Un avec sa tiare et l'autre avec les armes de Savoie. Donc quand même, il doit y avoir un lien de cause à effet.
Tout cela, on se dit qu'écrire un bouquin qui fait plus de 400 pages avec un certain nombre de références, ça demande forcément de la recherche, des coups de main, des gens qui vous ont renseigné ou indiqué un certain nombre de choses à trouver, que vous avez trouvées. Peut-être partiellement d'ailleurs. Des coups de main, vous en avez eu beaucoup pour faire l'ouvrage.
Eh bien, je dois dire que je commence à être un petit peu connu maintenant, et effectivement, j'ai eu des soutiens et des contributeurs, et donc ils sont indiqués dans les remerciements au début de l'ouvrage. Alors, on pourrait citer les archives départementales de l'Ain, et en particulier Florence Baum, qui, ça paraît étonnant, mais les archives révolutionnaires n'étant pas encore totalement triées et consultable, m'a autorisé à aller dans le fonds de réserve, donc ça faisait 17 mètres linéaires, et j'ai consulté en plusieurs jours cette série, et j'ai eu la grande chance de découvrir enfin qui avait racheté l'abbaye après la Révolution, ce que personne ne savait. Et évidemment, c'est détaillé dans le livre. J'ai eu aussi la chance à Chambéry, avec les archives de la Savoie, d'avoir des informations sur, cette fois des dépouillements qui étaient récents, sur les archives du Sénat de Savoie. Et donc en particulier, on a une grande partie qui concerne l'abbaye de Chézry, donc ça c'était très très intéressant. Et puis je tiens aussi à remercier M. Alain Mello, qui est historien du Pays de Gex, qui a bien volontiers accepté de relire l'ouvrage dans sa partie historique, et qui a apporté quelques nouvelles orientations à l'interprétation du passé. Donc tout cela est riche et produit cet ouvrage.
Il y a certaines choses dont j'allais dire dont vous n'êtes pas sûr, où vous laissez quelques points de suspension dans certaines choses qui sont racontées concernant cette abbaye. On n'est pas sûr, donc on met une parenthèse. Ça peut arriver quand il y a des recherches où on ne peut pas aller plus loin. On suppose que, mais on n'est pas sûr.
Oui, alors c'est évident que, en particulier entre le deuxième siècle d'existence de l'abbaye et on va dire le XVIe siècle, les archives sont très peu nombreuses, et donc là on a une énorme lacune. Bon, et dans ce cas-là, on ne dit rien puisqu'on ne sait rien. Ceci dit, il est fort probable que les archives des antipapes d'Avignon qui se trouve aujourd'hui au Vatican contiennent des ressources, mais ça sera pour quelqu'un d'autre.
On peut se poser la question concernant ces archives qui sont secrètes, qui sont secrètes, qui restent cachées. Pourquoi est-ce que des siècles après, à la limite, on les ressort pas? L'histoire, elle est passée, elle est finie. Parce que ça risque d'entacher peut-être ce monde-là, c'est une question. Hein, on peut se dire, oh non, faut surtout pas ressortir ce genre de choses maintenant, même après des siècles.
Là, je vais peut-être mettre un joker.
Est-ce que ce livre, vous l'avez fait consulter par des curés, des ecclésiastiques à Belay, à Nantua, je ne sais pas. Vous leur avez fait parvenir? Est-ce que ils ont fait parvenir des remarques ou des félicitations? Je ne sais pas.
J'ai été très en contact avec l'archiviste de l'abbaye de Tamier, qui est aussi une abbaye cistercienne et qui est encore en activité. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges avec l'archiviste. Bon. Et bien sûr, j'ai déjà des félicitations sur l'ouvrage, la masse des données qui ont été recueillies, tous les inédits. Oui, ça marche bien.
Collecter autant d'informations pour un bouquin qui fait 400 pages, c'est une question pratique ou pratique, ça vous a demandé combien de temps ça fait combien de temps que vous bossez dessus?
C'est difficile à répondre. Bah, ça fait, comme je disais tout à l'heure, une bonne dizaine d'années où on recueille des documents, comme ils arrivent, sur un village, sur une abbaye, sur une maison, sur une famille. Quand ce sont des documents relativement brefs, souvent accompagnés de photos, bon, ils sont publiés immédiatement dans le site PHC. Et puis le reste, bah, ça s'accumule. Et puis, bon, moi, je suis très méthodique. J'ai un ordinateur, donc avec des répertoires, des sous-répertoires, des cases. Et donc, je mets les choses là. Et donc, bah, Chaiserie, on peut dire que ça fait, oui, 10 ans que j'ai commencé à récupérer des documents. Par contre, je m'y suis vraiment mis à plein temps il y a 2 ans, on va dire. Et la rédaction a commencé au mois de janvier. J'ai une certaine habitude, mais j'avoue que j'ai quand même été surpris par la masse d'informations que j'avais et le temps qui était nécessaire pour tout mettre en place.
J'essaie encore un mot. Difficile de faire en ce moment, c'est la période un peu confinée, un peu compliquée. Ce bouquin, pas de séance dédicace pour cause de Covid, évidemment. On peut le trouver facilement, alors déjà bien sûr à Chaiserie, à la fromagerie de l'abbaye, mais ailleurs aussi, on peut l'avoir ce bouquin.
Alors effectivement, la fameuse fromagerie de l'abbaye de Chaiserie nous permet très aimablement de vendre notre ouvrage, ce qui nous fait bien plaisir. Parce que en ces temps de confinement, effectivement, c'est assez délicat. Sinon, on peut aussi l'acquérir ben, chez nous, donc à la Chandelette, à Champfromier. Pour ceux qui connaissent, ben, il suffit d'adresser un mail. Donc, je le répète pour ceux qui l'auraient un peu oublié. Donc, c'est PHC comme Patrimoine et Histoire de Champfromier. Donc, .champfromier@gmail.com. Et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout et qui souhaiteraient obtenir l'ouvrage avec une expédition postale, là malheureusement c'est relativement cher, donc ça monte le prix à 39,95 € en colissimo. Et pour avoir toutes les indications, bah, sur Google, vous faites acheter l'abbaye de Chaiserie par Ghislain Lancet. Et puis là, vous arrivez sur une page et vous trouvez toutes les informations. Ensuite, vous prenez contact avec nous et ça se passera très bien.
Je peux vous poser une question sous forme de confidence?
Bien sûr.
Les passionnés, on les connaît, ils ne s'arrêtent jamais en si bon chemin. Là, ce bouquin vient de sortir, vous allez laisser reposer, il va se vendre. Vous êtes sur quoi en ce moment? Vous avez commencé sur quoi?
J'ai rien commencé parce que au lieu de pouvoir vendre le livre dans une librairie ou avec une grosse journée de présentation et de dédicace, donc tout ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc du matin au soir, on est pris par des coups de téléphone, des mails, des contacts, et puis on fait la dédicace, on porte plus ou moins ouvrage sur place quand c'est pas trop loin quand même. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Ghislain.
Un entretien, je vous l'ai dit, d'à peu près une demi-heure consacrée à la sortie de ce pavé truffé d'informations, certaines que vous ne connaissez pas, que même d'anciens chaiserons ne connaissent pas, qu'ils découvrent. Parce que nous avons eu quelques retours. L'abbaye de Chaiserie, sur 408 pages. Je vous rappelle les lieux où vous pouvez trouver l'ouvrage. La librairie Biguet à Bellegarde, la maison de la presse à Nantua, le tabac presse Marron à Lélex, la boulangerie Ponsard de Champfromier, bien sûr, la fromagerie de l'abbaye de Chaiserie. Un bouquin passionnant que je vous recommande chaudement. Merci, Ghislain.
Sorgia FM.